Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et oui, bonjour et re-bienvenue dans l'émission 100 ans de cinéma, votre émission mensuelle dédiée à toute l'histoire du cinéma avec un principe très simple, c'est tous les mois nous recevons un ou une invitée qui est professionnelle du cinéma ou pas, mais qui est surtout cinéphile et qui vient nous parler d'une thématique de cinéma de son choix. Et aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Madame Agnès Marcetto. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui pour parler donc de cette thématique que vous avez choisie, enfin que je vous ai proposée pas mal, mais en tout cas que vous connaissez bien.
Voilà, que nous partageons.
Qui est celle voilà, de Jules Verne au cinéma, ses adaptations, son influence au cinéma. On va en parler bien sûr. Et puis bah alors, vous êtes très à même de parler de cette thématique puisque vous êtes la directrice du musée Jules Verne à Nantes.
En effet.
Ce musée Jules Verne, donc, bon, si jamais il y a des Nantais qui ne le connaissent pas, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu où on peut le trouver ?
Oui, absolument. Le musée, il se situe 3 rue de l'Ermitage, donc sur la butte Sainte-Anne, dans une situation déjà tout à fait remarquable et très vernienne. Puis il propose en fait de découvrir l'homme et l'écrivain et de mieux comprendre comment cette œuvre qui est si universellement connue a été composée. Et puis, ça permet aussi de rappeler combien elle a de sources nantaises d'inspiration.
Ben oui, puisque Jules Verne est né à Nantes.
Est né à Nantes en 1828 et que sa ville natale a eu une importance tout à fait capitale dans ses choix et de vie et puis dans sa vocation littéraire.
Oui. Et après, par contre, il est parti assez rapidement à Paris, puis en fait, s'est établi à Amiens.
Oui.
La majorité de sa vie d'adulte, mais c'est vrai que Nantes reste voilà important dans son processus de création. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il avait tout de même conservé une maison à Chantenay.
Alors, en fait, la maison de famille était à Chantenay et cette maison, elle a été conservée jusqu'à la mort de sa mère en 1887. Et effectivement, le dernier voyage de Jules Verne fait à Nantes, c'est pour vendre la maison de Chantenay. Ça veut dire que jusqu'en 1887, donc il avait pratiquement 60 ans, il venait tous les ans à Nantes et il y résidait.
D'accord. Très bien. Par contre, donc, ce musée n'est pas cette fameuse
maison. Ce musée
maison.
N'est pas cette maison. C'est bien un musée, une maison qui est contemporaine de Jules Verne. Donc, il a pu la connaître. Mais comme je le disais, en fait, l'intérêt de cette maison, c'est d'abord la maison elle-même, qui ne manque pas de charme, mais aussi son emplacement.
Ah oui.
Parce que vraiment, cet emplacement-là, aspectant la Loire, c'est vraiment un site vernien par excellence.
Et d'autant que maintenant que l'autre rive est réinvestie avec le hangar à bananes directement en face, on la voit d'autant mieux qu'on y va plus souvent de ce côté-là.
Absolument, on la voit aussi de Trentemoux. Oui. Or, Trentemoux, ça fait aussi partie de l'écosystème vernien. Et puis, depuis récemment, en plus, on propose, en plus de la visite du musée, un point de vue depuis la terrasse et même depuis cet été, une petite balade dans le jardin en fin de visite.
D'accord, très bien. Et alors, on se connaît déjà depuis quelques années, puisque en plus, nous avons programmé ensemble ce cycle Jules Verne grand écran qui est proposé donc par le musée Jules Verne en dehors du musée lui-même, qui n'a pas vraiment de salle qui serait suffisamment grande pour accueillir beaucoup de public d'un coup pour une séance, mais c'est aussi l'occasion de faire des projections voilà, hors les murs et de parler du musée. Et donc Jules Verne grand écran, ça dure depuis déjà 3 ans. Et il y a une prochaine projection, je l'annonce, ce sera le jeudi 14 octobre, donc très bientôt, au bar Belle de Jour, donc, qui est juste en haut de l'ancienne caserne Mélinette. Et ça sera à 20h30. Et le film qui sera proposé, donc, c'est L'Étoile du Sud, un film de Sidney Ayers de 1969. On pourra peut-être revenir sur ce film-là, mais on en parlera surtout avant la séance lors du 14 octobre. C'est un film assez étonnant, avec un casting haut en couleur, puisqu'on a à la fois Ursula Andress, George Segal, Michel Constantin et Orson Welles. Voilà. Et c'est donc une adaptation d'un des romans un peu moins connus, peut-être du très grand public, mais qui est de Jules Verne, entre autres d'ailleurs, on en parlera aussi. Et c'est gratuit, bien entendu, et vous pourrez avoir plus d'informations sur le site du musée ou sur le site du bar Belle de Jour. Voilà, alors Jules Verne sur le grand écran. Les adaptations de Jules Verne sur le grand écran, ça a toujours inspiré finalement les réalisateurs, et ce finalement de son vivant, puisque Jules Verne décède en 1905. Si je dis pas de bêtises, donc.
C'est exactement ça.
Et des réalisateurs se sont véritablement emparés, hein, parfois sans lui demander, surtout sans lui demander au tout début, de son œuvre avec le premier grand coup d'éclat de Jules Verne au cinéma, c'est en 1902, avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès.
Voilà, en fait, effectivement, le cinéma existe depuis une dizaine d'années lorsque Jules Verne meurt. Mais en plus, avant même son décès, il y a déjà eu des premières adaptations, sans effectivement qu'il soit d'ailleurs consulté. Parce que Méliès, pour ses féeries, trouve dans les romans de Jules Verne une source d'inspiration idéale.
Mais d'ailleurs, avant le cinéma, Jules Verne avait été beaucoup adapté
au théâtre.
Au théâtre, mais ça avec son autorisation et même son aval.
Absolument. Mais c'est important de le rappeler parce que c'est absolument dans cette continuité. Il y a une continuité totale entre des romans qui sont nativement illustrés, donc où l'image est importante dès le départ, les adaptations à la scène pour le théâtre, et puis très naturellement ensuite pour l'écran.
Oui, d'ailleurs, donc ces adaptations sur la scène, c'est des choses. Enfin, au début, je crois qu'il voulait faire. Enfin, il a commencé pas mal par du théâtre. Avant de se lancer vers les voyages extraordinaires. Le théâtre, c'est quelque chose qui le passionnait. Et donc, il était derrière, justement, ces adaptations.
Il y a participé, oui.
Alors, par contre, quel était son regard vis-à-vis du cinéma, puisqu'il a été son contemporain ?
Alors, en fait, je pense qu'il avait assez peu de regard par rapport au cinéma. Il y a un roman de Jules Verne où on peut trouver de l'image animée, qui est Le Château des Carpates, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler du cinéma.
La télévision.
Voilà, ou magnétoscope, on pourrait dire ça. Certains disent hologramme, mais les spécialistes ont depuis longtemps, précisé que ce n'était pas ça, les hologrammes. Voilà, c'est une mauvaise interprétation. Alors, moi, je pense que sur le cinéma lui-même, Jules Verne a eu peu d'avis, tout simplement parce que le cinéma, il apparaît à un moment où Jules Verne est âgé, et où il s'est quand même progressivement retiré. Mm-hmm. Voilà. Mais en revanche, le cinéma, immédiatement, a vu la source d'inspiration énorme que pouvaient être les romans.
Et donc, notamment, celui que j'ai cité...
Le Voyage dans la Lune.
Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, en 1902, qui est donc... alors, il faut imaginer le succès qu'a eu ce film, qu'on pourrait comparer peut-être, pour ceux qui s'en rappellent, à celui d'Avatar.
Tout à fait.
Dans le monde entier, pour ce qui est donc du succès planétaire, mais aussi des innovations techniques que le film proposait. Le film est véritablement impressionnant pour le public de cette époque-là. Et alors, par contre, il n'a pas demandé l'autorisation, c'est ce qu'on disait. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation à H.G. Wells, à qui il emprunte aussi beaucoup d'éléments dans ce voyage dans la Lune.
Oui, absolument. Mais je crois que la question ne se posait pas tellement pour lui.
Non.
C'est-à-dire qu'il considère que c'est une thématique qui l'intéresse, il s'en empare. Quand on voit le film de Méliès, on sait bien que ça n'est pas tout à fait fidèle au roman. De toute façon, chez Jules Verne, on ne va pas sur la Lune, contrairement à Wells. Mm-hmm. Donc c'est vrai que tout ça, c'est un petit peu, on pourrait dire, un pot-pourri d'influences diverses et variées. Mais en fait, derrière tout ça, c'est l'esprit. Alors, c'est l'esprit de la féerie. C'est vraiment ça qui intéresse Wells, Méliès, pardon.
Oui.
Et puis, d'autre part, ce qui est évidemment très vernien aussi, c'est justement cette innovation technologique. Donc, on est vraiment dans une sorte de grande famille qui s'intéresse à de nouvelles formes d'expression. Et Jules Verne en est vraiment partie prenante.
Mmh. Oui, tout à fait. Et puis, on va juste aussi pour faire un peu ce point, quand Jules Verne est adapté au cinéma, tout au long de l'histoire du cinéma, donc pas seulement avec Méliès, mais ça commence avec Méliès, il va être adapté la plupart du temps très librement.
Oui, absolument.
Il y a donc, une certaine fluidité de son œuvre, finalement.
Oui, ou plasticité, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on y prend ce qui intéresse et puis on y ajoute ce qui manque. Alors, on prend toujours cet exemple qui est un peu marquant. Par exemple, Hollywood, très souvent, ajoute des personnages féminins qui ne sont pas présents dans certains romans de Jules Verne. On a beaucoup glosé là-dessus. Mais même avant le Hollywood, le grand Hollywood des années 50, quand Stuart Patton adapte 20 milieux sous les mers en 1916, il introduit déjà un personnage féminin qu'on aurait bien du mal à trouver, que ce soit d'ailleurs dans 20 milieux sous les mers ou L'île mystérieuse, qui sont les deux romans qui aident à la trame du film.
C'est la fille
d'Aronnax qui...
Et aussi la fille... Ah, vous l'avez pas vu jusqu'au bout.
Ah non, je crois que je l'ai pas vu jusqu'au bout parce qu'il y a une nouvelle. Ah, la fille de Nemo qui apparaît.
Ouais.
Ah bah il y en a pour tout le monde. Ah, c'est merveilleux. Bah ça voilà. Ça me donne une raison de plus de voir le film jusqu'au bout.
Et ce film ouais, date de 1915 et c'est alors pour le coup un peu plus fidèle au oui. roman au niveau des péripéties en tout cas par rapport à l'adaptation, enfin une adaptation de standard donc de Méliès. Et c'est donc de Stuart Patton, c'est une adaptation américaine. De 1915 et qui, bah, là aussi, dans la tradition de l'héritage de Jules Verne, il y a des vraies avancées technologiques aussi.
Ah ouais, oui, ce sont les premières images sous-marines. Donc évidemment, c'est un véritable exploit technique pour la réalisation de ce film. Et justement, quand on le voit, je pense que vraiment, c'est extrêmement fidèle à ce que Jules Verne voulait rendre. Et on retrouve cette proximité entre les illustrations des romans, les descriptions de Jules Verne, et puis ce que les réalisateurs réussissent à réaliser et à mettre en scène.
Mmh, oui, tout à fait. Et puis on va sentir à chaque fois dans ces adaptations, finalement, quelques éléments qu'on peut retrouver et qui peuvent aussi peut-être... expliquer la longévité finalement de l'intérêt du grand public pour les films adaptés de Jules Verne. Parce que comme dans ses romans, il est question de grande aventure, la plupart du temps tout public, avec en plus ses imaginations, ses inventions, ce côté un peu... Alors pas vraiment féerique chez Jules Verne, mais plutôt technique, quoi. Cette stupéfaction face au futur possible, mais déjà un peu présent. Et puis voilà, et puis souvent donc mise à jour quand même à la mode de l'époque. Mais il y a aussi eu des adaptations un peu plus, enfin de romans un petit peu plus pour un public adulte. Je pense notamment au Phare du bout du monde, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Alors oui, également peut-être parlons de ces machines chez Jules Verne, puisque il a cette réputation de visionnaire. Alors que, par exemple, dans le cas, si je ne dis pas de bêtises, du Nautilus, du sous-marin, il extrapole par rapport à des choses qui existent déjà.
Voilà, de toute façon, c'est vrai de toutes les machines extraordinaires de Jules Verne. Il part de la réalité technologique de son époque et effectivement, il extrapole sur ce que pourraient être les performances des véhicules. Alors, prenons le Nautilus et le sous-marin. Lorsque Jules Verne écrit son roman, il y a déjà des prototypes de sous-marins. Mmh. Voilà, donc on sait que c'est une recherche qui est en cours. Mais Jules Verne, ce qu'il nous décrit, c'est véritablement un sous-marin à propulsion nucléaire. Oui. Il en a. D'ailleurs, je pense qu'il a même le Nautilus, il a des performances que les sous-marins nucléaires n'ont jamais atteintes. Parce que comme Jules Verne ne voulait pas se donner de limites à son récit, il donne au Nautilus... on va pas dire des pouvoirs, parce que ça n'a rien de magique dans l'esprit de Jules Verne, une puissance de déplacement qui n'a jamais été atteinte et qui ne risquait pas d'être atteinte à l'époque de Jules Verne. Et Jules Verne ne s'embarrasse pas trop sur les détails techniques. Mais malgré tout, comme il est bien documenté et comme il a un grand souci de vraisemblance technologique, et bien entendu, on y a vu au moins une géniale anticipation de ce qui sera réalisé ensuite. Et évidemment, des éléments comme ça, c'est épatant pour le cinéma.
Oui, bien sûr. Ça permet... Ça permet de rêver justement sur grand écran. Et, pardon. Dès donc 1902, avec ce voyage dans la Lune, avec le tir donc, du canon en direction de la Lune, ce fameux obus qui va arriver dans l'œil donc,
dans
de,
l'œil
la Lune,
de la Lune,
qui sera l'une des images les plus marquantes du cinéma de Méliès et du début du cinéma.
Voilà,
finalement.
Et ça, c'est très intéressant parce que le canon et l'obus, c'est la technique ou la technologie que retient Jules Verne. Oui. Alors même qu'on sait bien que lorsque les voyages spatiaux vont se réaliser au XXe siècle, ça ne sera ni des canons, ni des obus, mais des fusées. Mmh. Voilà. Donc encore un élément où Jules Verne s'est approché de la réalité, mais évidemment n'a pas pu la prévoir.
Bah oui, oui.
Très exactement.
Pas complètement, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, les gens à l'intérieur de la capsule de l'obus seraient réduits en...
Absolument, c'est ce qu'on dit, c'est si on propulsait l'obus avec un canon, il serait ratatiné, oui.
Voilà, bon, bah, tant mieux, heureusement la NASA fait les choses un peu mieux.
Oui.
Voilà, et le voyage dans la Lune, en plus, il a été fait en couleur, enfin pas en couleur, il n'a pas été tourné en couleur, mais il a été colorisé, puisque, enfin, c'est pas moi, mais il a été retrouvé dans une version colorisée quasiment complète il y a quelques années, et qui a été restauré entièrement, qui est ressorti grâce à, notamment à Lobster Film, donc dans une version vraiment, vraiment magnifique. Pendant le cinéma muet, il y a d'autres... Alors, Méliès va adapter donc, librement Le Voyage dans la Lune, mais il va également adapter d'autres livres très librement aussi. Il y a le rêve du pêcheur, qui est vaguement une adaptation.
Puis, ce qui est intéressant, c'est que Méliès il a adapté ce qui n'est pas un roman, mais une pièce de théâtre de Jules Verne très peu connue, qui est Le Voyage à travers l'impossible.
Ah oui.
Et ça, c'est très intéressant que Méliès se soit emparé de cette œuvre qui est très à part dans la production vernienne, mais qui ne pouvait que plaire à Méliès.
Oui, bah oui, oui. Il adapte également, sans que ce soit tout à fait... enfin, c'est pas fidèle, on est d'accord. En 1912, c'est l'un de ses derniers films, À la conquête du pôle, qui est une adaptation assez libre du Sphinx des glaces. Mm. Qui était lui-même une suite d'un livre d'Edgar Allan Poe.
C'est ça, absolument.
Mm-hmm. Voilà.
La filiation est parfaite.
Dont Wells était très fan, et à qui, je crois, il n'a pas demandé l'autorisation d'écrire une suite.
Ah non, 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 tout à fait. Non,
c'était comme ça à l'époque.
Oui, 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 la question ne se posait pas tellement. Hein.
Oui, oui. D'ailleurs, les films de Méliès eux-mêmes ont été mal piratés.
De même que Jules Verne, il a été traduit de son vivant dans beaucoup de langues et dans beaucoup de pays, et il n'avait pas la main sur les traductions.
Ah non, c'est ça, oui. les éditions pirates.
Oui.
Et puis, il y a eu également un grand imitateur de Méliès, qui du coup a imité les adaptations de Méliès. C'est un réalisateur espagnol qui a travaillé en France, c'est Segundo de Chomón, qui a fait donc, c'est un peu ses propres versions du Voyage dans la Lune, etc., mais qui sont aussi des très belles adaptations,
oui.
un peu plus récentes, enfin juste quelques années après Méliès, mais ça vaut le coup de le citer, puisque dans ce monde de cette époque où ils sont tous des pirates, ils se piquent tous des choses les uns aux autres, et ben il y a aussi des très belles réalisations dans ces copies, quoi. Et Segundo de Chomón, où il avait commencé à la pâter, si je dis pas de bêtises. On va faire une rapide pause musicale avec donc comme d'habitude dans 100 ans de cinéma des extraits musicaux tirés des films dont on parle ou au moins dans la thématique. Et donc on commence avec Maurice Chevalier himself en anglais, mais avec l'accent de Ménilmontant quand même. C'est Enjoy It, c'est sur la bande originale de In Search of the Castaways, donc qui était l'adaptation des
Enfants du Capitaine Grant.
Des Enfants du Capitaine Grant. C'est très court, on se retrouve tout de suite après dans 100 ans de cinéma avec Agnès Marceteau pour parler de Jules Verne au cinéma.
Why cry about bad weather? Enjoy it. Each moment is a treasure. Enjoy it. We are travelers on life's highway. Enjoy the trip. Each lovely twist and byway, each bump and dip. If there's a complication, enjoy it. You've got imagination, employ it. Then you'll see roses in the snow. Joie de vivre will make them grow. Voilà, that's life. Enjoy it. Da-di-da-di-da-di-da. Enjoy it, da-di-da-di-da-di-da. Enjoy it. A hurricane comes your way. Enjoy the breeze. Your
you're stranded in the jungle, enjoy the trees. If there's a complication, enjoy it. You've got imagination, employ it. This world's a cornucopia. Why, it could be
utopia.
Voilà, that's right. Enjoy it.
Why cry about bad weather? Enjoy it.
No, enjoy it.
Each moment is a treasure. Enjoy it.
That's better, enjoy.
We're travelers on life's highway. Enjoy the trip. Each lovely twist and byway. Each bump and dip.
Good.
If there's a complication, enjoy it.
Enjoy it.
You've got imagination.
Employ it. Employ it.
Then use the roses and the snow. Joie de vivre, we'll make them grow. Voilà. That's life. Enjoy it.
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
De retour dans l'émission 100 ans de cinéma, votre mensuel cinéma sur la Radio Prune, avec notre invitée Agnès Marcetto, directrice du musée Jules Verne à Nantes, qui vient nous parler donc des adaptations de Jules Verne au cinéma. On vient d'écouter un extrait donc d'une chanson chantée par Maurice Chevalier, les Enfants du Capitaine Grant, qui était donc une adaptation Disney des années 60. Alors, c'est pas la première adaptation Disney. La première, elle date de 1954 et c'est une très belle adaptation de 20 000 lieues sous les mers.
Tout à fait. Donc effectivement, alors Maurice Chevalier, c'est un assez bon Paganel, mais on pourrait en discuter. Mais en tout cas, effectivement, cette adaptation de 20 000 lieues sous les mers de Fleischer avec d'excellents acteurs, elle est magistrale, effectivement. Donc, elle crée, je pense, une sorte de compagnonnage entre Hollywood, Disney et puis Jules Verne, qui va se décliner sur plusieurs films. Et c'est vrai que les réalisateurs et les producteurs, ils ont eu l'intelligence de s'emparer de la matière vernienne, de l'adapter quand c'était nécessaire, tout en restant fidèles à l'esprit. Et en même temps, ils ont bénéficié de moyens technologiques tels qu'ils font vivre véritablement sous nos yeux cette féerie scientifique.
Oui, et moyens techniques à l'image, c'est-à-dire avec les effets spéciaux,
oui.
Mais aussi avec l'image elle-même, Technicolor,
absolument,
Cinémascope.
En particulier, voilà, quand on parlera du Tour du Monde en 80 jours, avec Todd qui met carrément au point... Un système de comment dirais-je de caméra avec très 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 large focale. Évidemment, les prises de vue du Tour du Monde créent absolument l'exotisme qui est contenu dans le roman. Et puis ces films, ils ont vraiment bénéficié d'interprètes idéaux. Voilà, James Mason en Capitaine Nemo, c'est le capitaine Nemo, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de l'incarner après lui.
Alors, il n'est pas indien.
Alors, il n'est pas indien, non. Alors, effectivement, il n'est pas indien.
Mais ils adaptent le premier roman où on ne sait pas que...
C'est ce que voilà. J'allais dire. De toute façon, dans 20 milieux sous les mers, on ne sait pas que Nemo est indien. Et justement, dans le fameux film là, de Patton, en 15-16, on sait qu'il est indien. Mm-hmm. Voilà. Et je ne trouve pas que le personnage ait la force qu'il a dans le Disney.
Non, effectivement. L'interprétation de cet acteur dont j'ai oublié le nom,
moi non plus.
En 1915. C'est plus... de l'ordre du muet, hein, donc on
oui,
surjoue,
oui.
Hein, bien entendu, mais pas... Voilà. Non, James Mason est absolument impeccable, effectivement, dans ce rôle très... un Nemo très sombre, très torturé, qui a décidé, comme dans le roman, donc, de laisser l'humanité à elle-même, puisqu'il s'en est fait... Il a décidé de se retirer, mais il reste encore en lui une étincelle d'humanité.
En fait, il est comme le personnage de Jules Verne, il est implacable et torturé. Et c'est vrai que Mason l'interprète et l'incarne idéalement. D'ailleurs, Mason, il va ensuite interprété Lidenbrock dans Le Voyage au centre de la Terre. L'interprétation est aussi tout à fait intéressante, mais je trouve qu'il est encore plus convaincant en Nemo.
Oui, en personnage torturé, effectivement. James Mason, il y a également Kirk Douglas.
Kirk Douglas, voilà, qui est un Ned Land haut en couleur.
Oui, Ned Land, donc le harponneur.
Le harponneur, oui.
Qui fait partie d'une toute petite partie de l'équipage d'un bateau qui s'est fait donc détruire par le Nautilus, puisque le bateau l'avait attaqué, et qui se fait récupérer, donc, et qui rentre dans le Nautilus. Et donc, Kirk Douglas, qui était, avec James Mason, la grande star du film à l'époque.
Voilà, et on peut dire que d'ailleurs, il y a certaines adaptations dans le film qui ont été faites pour les besoins de Kirk Douglas.
Oui. Il a plus de place que dans le roman, probablement.
Il est plus sympathique. Il nous vaut des scènes d'anthologie avec la fameuse otarie. Enfin, il y a vraiment... voilà. Et puis, il y a quand même Peter Lorre en conseil, qui donne aussi une grande substance au personnage et qu'on retrouvera dans Le Tour du Monde en 80 jours en passe-partout. Donc, il y a aussi là des...
Oui, tout à fait. Ouais. Des ponts. Et puis, alors, on oublie toujours, hélas, le pauvre interprète du professeur Aronnax, Paul, je ne sais plus comment.
Moi non plus, ce n'est pas Duncan ?
Lucas.
Lucas. Paul Lucas. Et vous avez raison, c'est un excellent acteur.
Ah oui, il était très bien dans le rôle. Ouais.
Voilà. Et tout à l'heure, sur Peter Lorre, j'ai dit une sottise parce qu'on le retrouve bien dans le Tour du Monde en 80 jours. Mais en fait, ce n'est pas passe-partout, puisque évidemment, c'est Quentin Flass. Mais on le retrouve aussi, Peter Lorre, dans une autre adaptation hollywoodienne de Jules Verne, qui est 5 semaines en ballon.
D'accord.
Donc il y a quand même toute une famille d'acteurs là, qui ont incarné différents personnages verniens. Mais c'est vrai qu'il est excellent, Aronnax. Il a la stature, il a à la fois la présence et puis la distance.
Et puis Disney avait mis le paquet assez clairement. C'est un film qui avait coûté extrêmement cher pour l'époque. D'ailleurs, si aujourd'hui on ajuste à l'inflation, c'est encore un film qui coûte très cher dans l'histoire du cinéma.
Et
Disney avait l'habitude comme ça de faire des gros paris comme avec Blanche-Neige et les Sept Nains, qui avait coûté, je crois, qui coûtait 7 fois le prix de son studio, enfin la valeur de son studio.
Et effectivement, il y a cette création. Alors, j'ai oublié le nom du décorateur, mais je crois qu'il est extrêmement connu. Et peut-être que vous l'aurez présent à l'esprit avec le Nautilus, parce que c'est un morceau d'anthologie, ce Nautilus. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives de réadaptation de 20 milieux sous les mers, et je crois qu'elles ont du mal à aboutir parce que ça, effectivement, ça représenterait des budgets colossaux.
Ben oui, il y avait notamment David Fincher qui voulait en faire une version avec Will Smith, mais bon, c'est dans les limbes hollywoodiennes depuis au moins 15 ans.
Oui, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, si on voulait faire un 20 milieux sous les mers, on serait sans doute sur des formats genre Titanic, quoi.
Bah oui, ouais, ça coûte très, extrêmement cher. Et donc, ce film en 54, 20 milieux sous le mer de Richard Fleischer, qui est quand même un excellent réalisateur américain, qui d'ailleurs est le fils d'un des frères Fleischer, qui était en concurrence directe avec Walt Disney. Et lui, donc, il vient travailler avec l'accord de son père pour Disney, pour la concurrence. C'est vraiment un très grand réalisateur qui a fait des choses très différentes tout au long de sa carrière et qui vaut le coup. Mais ce film, donc, va lancer en fait une mode d'adaptation des œuvres de Jules Verne par Disney ou par d'autres. Et vraiment, il y a un âge d'or qui va dater du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 60. On peut dire une véritable exploitation des livres de Jules Verne qui devaient peut-être juste tomber dans le domaine public. Ou peut-être y avait-il ce genre de questions économiques qui peuvent parfois expliquer aussi.
Oui, alors voyons, il est mort en 1905. Donc oui, si on considère que c'était 50 ans à l'époque, mais en même temps, il y avait les années de guerre.
Oui.
Je pense qu'il y a eu aussi peut-être dans les années 50 une redécouverte de l'œuvre de Jules Verne et que tout ça a dû être porteur.
C'est vrai que les années 50, c'est un moment propice pour la science-fiction. Et c'est peut-être, aux États-Unis très notamment, et c'est peut-être à ce moment-là où on a voulu rechercher aussi les racines de la science-fiction avec Jules Verne. En tout cas, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler une Verne-sploitation, puisqu'on aimait bien faire ce genre de néologisme au cinéma, avec juste deux ans après, un autre film qui va vraiment entériner cette mode à Hollywood des films, des adaptations de Jules Verne, c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Donc de Michael Todd.
Oui.
Oui, c'est ça. En 1956, qui est resté pendant très longtemps l'un des films à avoir remporté le plus d'Oscars en un coup. Une adaptation luxueuse là encore. Oui.
Alors moi j'ai une affection toute particulière pour ce film que je trouve un chef-d'œuvre d'adaptation. Les interprètes sont excellents. Niven en Phileas Fogg, c'est parfait. Shirley MacLaine, pour moi, est une bonne Mrs. Aouda, même si ça fait partie des sujets très, très discutés.
Oui.
Et puis, il y a donc cette découverte de cet acteur qui, je crois, était
mexicain,
voilà, Cantinflas, et qui est un passe-partout assez bon. Alors, avec quelques petites particularités du film amusantes, je pense que... on disait tout à l'heure qu'il y avait des adaptations du 20 milieux sous les mers qui ont été faites pour Kirk Douglas. Il y a aussi des adaptations du roman faites pour Cantinflas, en particulier le détour par l'Espagne, parce que je pense qu'il fallait que Cantinflas danse le flamenco. Quoi.
C'est bien possible.
C'était une obligation.
Et puis, pour aussi faire plaisir à ses fans, les fans qui venaient de son pays ou de pays hispanophones. Et d'ailleurs, ce film va convoquer, puisque les personnages font véritablement le tour du monde, le film va convoquer donc des acteurs, des actrices très connus dans leur pays, avec des passages en France.
Oui, qui n'existent pas dans le roman,
non.
Et qu'on ajoute et où on voit apparaître... Fernandel,
par
exemple.
Et puis, bien sûr, aux États-Unis, là, le film se fait plaisir, puisque dans la même scène, on va avoir Marlene Dietrich, Frank Sinatra, et je ne sais plus qui. Mais enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, on se rappelle peut-être surtout, parce que l'affiche de l'époque mettait véritablement en avant, certaines des affiches de l'époque mettaient vraiment en avant toutes les apparitions de stars comme ça, sans pour autant vendre l'histoire elle-même, ce qui est un peu dommage, parce que ce n'est pas le but premier du film. Et donc, peut-être qu'on s'en rappelle aussi pour ça, mais il ne faut pas oublier que le film a vraiment... c'est un très beau film aussi, avec des grands moyens. Justement.
Et avec, donc, pour ce que j'en sais, puisque je ne suis pas spécialiste de cette technique, mais Todd mettant au point ce mode de prise de vue qui permet d'avoir pendant le film certains panoramiques absolument somptueux et qui participent évidemment de la beauté, parce qu'il y a on fait vraiment le tour du monde,
voilà. Ah oui.
et c'est magnifique. Il y a des scènes qui sont des scènes de pure contemplation, et ça c'est important d'avoir su restituer ça.
Oui, parce que là du coup on retrouve effectivement les écrits de Jules Verne,
oui,
qui avait pour but dans son c'était quoi, le magasin
d'éducation et de récréation,
voilà, où il fallait apprendre des choses aux
oui.
jeunes et puis même aux plus âgés, enfin pas que aux jeunes, mais le cinéma effectivement c'est un très bon moyen d'adapter Jules Verne et sa volonté d'éducation, enfin éducationnelle on va dire,
oui. Et puis le tour du monde c'est vraiment un phénomène civilisationnel, parce que cette capacité à partir de 1870 de faire le tour du monde, Jules Verne le comprend très bien, en fait tout de suite un roman, et ça reste, je pense, jusqu'à nos jours une vraie problématique.
Oui, de faire le tour
du monde. Voilà.
Tout à fait. C'est l'occasion d'ailleurs, le film a été adapté assez peu de fois au cinéma, plusieurs fois par contre à la télé, mais une autre fois au début des années 2000, on viendra sur cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce film de 2001-2002 adapte moins le roman que n'est un remake finalement du film de 56.
Oui, puis amène un autre regard. Donc bon, le film a été fait beaucoup autour du personnage de Jackie Chan.
Oui.
Qui incarne Passepartout. Donc, de même que le Passepartout de Jules Verne s'était adapté à Cantinflas, là, le Passepartout va s'adapter à Jackie Chan. Mais en même temps, il introduit effectivement certaines modernités qu'on ne trouvait pas ni dans le roman, ni dans le film des années 50. Alors, je crois qu'il y en a une qui vous est particulièrement chère, c'est le personnage de Cécile de France,
oui,
qui renouvelle la vision du personnage féminin.
Ben oui, voilà. Parce qu'elle est, elle n'est pas une victime.
Mais je ne crois pas que Mrs. Aouda soit une victime.
Ah, elle l'était au début, la pauvre.
Oui, oui.
Là où ils l'ont, voilà. Mais la récupère.
Justement, c'est intéressant ce genre de discussion parce qu'on voit comment Jules Verne, à travers un roman fait en 1872, nous amène à nous poser des tas de questions d'actualité. C'est ce qui fait qu'on a, je crois qu'on... on continue à avoir envie de l'adapter.
Oui, mais oui, bien sûr. Et c'est vrai que le film a été pas mal construit autour de Jackie Chan, mais ça permet aussi, finalement, des passages qu'il n'y avait pas dans le film de 56, qui s'ouvraient un peu aux autres, avec un passage en France ou en Espagne, mais pas tellement plus loin finalement que l'Europe au niveau des acteurs, je veux dire,
oui,
embauchés, puisque bon,
c'est la question de Shirley MacLaine, voilà, interprétant Mrs. Aouda, par exemple.
Et là, avec Jackie Chan, on a quand même une scène qui se passe en Chine avec aussi son acolyte habituel Sammo Hung dans des vraies scènes de kung-fu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au cinéma américain, c'est-à-dire vraiment chorégraphié par des artistes de kung-fu comme Jackie Chan et Sammo Hung, et du coup c'est vraiment agréable. Et puis après, bon, bien sûr, il y a toujours le passage aux États-Unis avec un pléthore de stars, avec les frères Wilson qui jouent les frères Orville, enfin
les aviateurs, c'est
les
ça
aviateurs, oui. Ouais. Et puis un passage assez savoureux quand même avec Arnold Schwarzenegger,
oui,
qui joue un roi turc.
Oui, je crois que c'est ça. Oui,
bon.
Non, mais c'est vrai que c'est là, on peut parler de nouveau de très libre adaptation, effectivement. Ouais.
Et puis bon, alors ça, c'était pour revenir au film de 56. Donc une autre adaptation 3 ans après de Jules Verne, toujours dans les années 50. C'est donc, on l'a évoqué aussi un peu, Le Voyage au centre de la Terre avec James Mason qui revient dans une adaptation de Jules Verne pour jouer cette fois-ci le professeur Lindenbrock qui part donc avec son neveu
Axel, oui,
et un guide
islandais qui s'appelle Hans,
voilà.
et parce que Hollywood pense que c'est indispensable, une femme et d'ailleurs une oie aussi, d'ailleurs, bon, après on peut en discuter.
Oui, et ce film est aussi très beau.
Oui, c'est un très beau film. Oui.
Alors là, pour le coup, Jules Verne a pris on disait qu'il s'inspirait quand même des découvertes scientifiques, des avancées scientifiques. Là, dans Voyage au centre de la Terre, il imagine que il y a un monde souterrain.
Oui, mais ceci dit, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a eu deux versions du roman.
Oui.
Et dans un premier roman, la dimension préhistorique n'était pas développée. Et si Jules Verne la développe ensuite, c'est qu'à l'époque, on est dans les premières découvertes de la préhistoire. Donc ça aussi, c'est vraiment en lien avec l'actualité scientifique de son époque. Et du coup, Hollywood s'en empare et crée un univers absolument fantastique qui est décrit par Jules Verne, mais que Hollywood, évidemment, met devant nous en 2D.
Oui.
Et depuis, il y a eu des interprétations où on est même allé jusqu'à la 3D.
Jusqu'à l'impression de relief.
L'impression de 3D, oui.
Mais il y a toujours cette facilité, quand on est sous terre, donc il explique bien dans le roman, il y a des champignons spéciaux,
oui,
qui produisent de la lumière. Voilà.
C'est-à-dire, c'est notre ami Jules, hein,
ah,
il
oui.
a besoin de créer une trame romanesque, et quand il a besoin d'une licence poétique, il la prend.
Oui, mais c'est bien.
Mais c'est bien, voilà.
Et c'est ce qui va finalement le ramener pas si loin d'un G. Wells. J'aurais aimé les voir se rencontrer. Mais...
Ils ont parlé l'un de l'autre.
Ils ont parlé l'un de l'autre, c'est déjà ça. Et puis, ce film donc, va encore être un succès et va donc véritablement lancer donc, cette Vernsploitation qui va commencer également à être adaptée par d'autres gens que Disney, s'entend donc le filon, notamment la société donc, de Roger Corman avec un film qu'on a projeté. C'était le premier de la programmation Jules Verne Grand Écran, c'est Maître du Monde.
Oui.
que moi, pour lequel j'ai une vraie passion, notamment pour son casting, hein, puisque dans le rôle de Robur le Conquérant, on a Vincent Price, et dans le rôle donc d'un, je me rappelle plus le nom de son personnage,
d'un matelot, un qui matelot. Fait partie de l'équipage, oui.
Voilà, qui est en fait le héros du film, c'est Charles Bronson, tout jeune. Déjà, moi, rien que les deux à l'écran, ça me suffit pour regarder le film. Alors par contre, c'est une adaptation un peu plus fauchée que celle de Disney.
Oui, ça se ressent.
Mais c'est bien écrit.
Oui. Puis je dirais, alors ce qui est intéressant dans cette adaptation, c'est que en fait, les libertés qui sont prises par rapport au roman, quelque part, introduisent des significations nouvelles et enrichissent la problématique. Parce qu'il y a cette interrogation en particulier sur certaines guerres, leur utilité, leur bien fondé, qu'on ne va pas trouver dans Jules Verne et qui vraiment sont très intéressantes.
Il y a également, je trouve, des sous-textes éventuels sur l'éventuelle homosexualité de Robur.
Oui.
Qui dénote justement aussi une avancée dans l'interprétation.
Ça fait très longtemps que certains ont trouvé des sous-textes sur ou l'homosexualité ou la bisexualité de Jules Verne. Hein, donc on est dans la filiation. Hein.
Ben oui, puisque les femmes sont tellement absentes. Après tout. Mais voilà, on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant, justement, puisqu'on en a parlé, on va écouter Kirk Douglas chanter tout seul, c'est pas avec une otarie cette fois-ci, une chanson qui s'appelle Whale of a Tale, pardon. Donc c'est un peu intraduisible, c'est une grande histoire, mais avec un jeu de mots, ouais, enfin grande et baleine, enfin bref, en espérant que le fichier marche, mais on se retrouve tout de suite après.
Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie, met her down in Madagascar. She would kiss me anytime that I would ask her. Then one evening, her flame of love blew out. Blow me down and pick me up. She swapped me for a trout.
Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up, she was the captain's wife.
Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
Then there was Harpoon Hannah, had a look that spelled out danger. My heart quivered when she whispered, I'm there, stranger. Bought her trinkets that sailors can't afford.
Sailors can't afford.
And when I spent my last red cent, she tossed me overboard.
Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
Cent ans de cinéma et des poussières avec notre invité.
De retour après, donc, et vous ne l'entendez pas souvent chanter, c'était Kirk Douglas sur la bande originale de 20 milieux sous les mers de 1954, qui était réalisée par Richard Fleischer. Et toujours avec notre invité, donc Agnès Marceteau, directrice du musée Jules Verne à Nantes, pour parler des adaptations de Jules Verne au cinéma au fil des années, puisqu'il a été vraiment adapté du début jusqu'à aujourd'hui du cinéma. Alors on a parlé donc de cette grande période des années 50-60 avec des films marquants, et puis également Les Enfants du Capitaine, une grande 5 semaines en ballon où on retrouvait donc Peter Lorre, Le Grand Départ vers la Lune également, qui était une adaptation qui n'a pas trop marché mais qui est assez, où il y a de la valeur, L'Étoile du Sud, puis en France les tribulations d'un Chinois en Chine avec le regretté Jean-Paul Belmondo. Et qui était une adaptation déjà très libre.
Très libre, mais excellente.
Bah oui, très...
Et fidèle à l'esprit, sinon à la lettre. Donc c'est un bon film.
Et puis très libre aussi, j'ai envie de dire, dans sa folie finalement,
ah, mais
dans
tout
son
à
action.
Fait. Mais le roman de Jules Verne est porteur de folie. Et c'est ça, c'est bien de l'avoir senti dans cette adaptation.
Oui, et puis bon, ça prend des libertés, par exemple, remplacer un personnage de, d'un personnage chinois par Jean Rochefort. Et on ne peut pas lui en vouloir, quelque part.
Non, et de même, Ursula Andress est tellement charmante. Que...
Exactement. Et puis, elle s'appelle... il l'appelle...
Ah, je ne me souviens plus.
Je ne sais plus, mais enfin, c'était un nom exprès.
Mais c'est pareil, hein, c'est un personnage qui n'existe pas dans le roman.
Oui.
Enfin, qui remplace un personnage chinois.
Voilà. Et donc, bah, Jules Verne a plu... on a parlé du cinéma américain, français un petit peu. Mais il a plu au-delà des frontières et notamment donc, à l'Est. Alors, notamment en Russie, forcément, et puis dans tous les pays de l'Est. Peut-être notamment parce que Jules Verne écrit déjà de son vivant un grand roman sur la Russie, avec Michel Strogoff.
Alors non, ce n'est pas la raison.
Non.
Car le roman que les Russes aiment le moins chez Jules Verne, c'est Michel Strogoff.
Ah, d'accord.
Donc les raisons sont différentes. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au XXe siècle, véritablement, les deux blocs, les États-Unis d'un côté et puis l'URSS de l'autre, se sont emparés de Jules Verne et l'ont, d'une certaine manière, instrumentalisé, en tout cas tiré vers leurs intérêts.
Certains.
Alors, il y a une véritable histoire de la présence de Jules Verne en Russie puis en URSS. Donc déjà, à l'époque tsariste, il est lu en Russie,
oui.
Il est apprécié. On a par exemple des témoignages de Tolstoï disant Jules Verne à ses enfants. Au moment de la Révolution russe, la question va se poser. Est-ce qu'il fallait garder Jules Verne ou pas? Et puis en fait, on sait que c'est Gorki qui a réussi à convaincre les autorités que Jules Verne devait devenir pratiquement un auteur recommandé. Donc les familles russes, aujourd'hui encore, connaissent très bien Jules Verne parce que l'ont lu et puis l'ont vu au cinéma, justement.
Il était soviéto-compatible.
Voilà, mais certains, ils choisissaient bien les romans.
Oui, d'accord.
Voilà, donc les romans qui sont choisis et qui sont mis en avant ne sont pas n'importe quel roman.
Mais c'est vrai, oui, après tout, ça peut s'adapter avec certains de ces romans qui sont une vision du progrès.
Héroïque.
Avec,
absolument.
Voilà, puis internationaux, international communiste.
Voilà, etc. Et puis il y a donc, par exemple, le capitaine de 15 ans avec Dick Sand, qui est un très, très beau personnage de garçon soviétique parfait.
Ben oui.
Donc, dans les adaptations soviétiques, c'est ça qui est mis en valeur.
Ben notamment dans une adaptation du Capitaine de 15 ans,
voilà.
Qui date de 1945 et qui a fait partie de la programmation Jules Verne Grand Écran.
Voilà, et que vraiment des générations entières de Russes connaissent, parce que ils ont chanté les chansons du film. C'était tellement promu que dans toutes les familles, on connaissait ce film-là.
Avec, mais il est adapté donc même dès les années 30,
oui.
Avec il y a une version des Enfants du Capitaine Grant.
Absolument.
Et il est adapté jusque dans les années 70 avec une adaptation à la télévision, cette fois-ci surtout de Capitaine Nemo, enfin des aventures du Capitaine Nemo, qui lui aussi effectivement peut être un personnage qui peut plaire.
Oui, oui.
Puisqu'il s'oppose justement aussi aux États-Unis.
À l'impérialisme.
Voilà, à l'impérialisme. donc pourquoi pas. Et c'est vrai que ça faisait partie donc, des livres qui ont passé la barre de la censure, finalement, et même à toutes les périodes, finalement, plus ou moins censurées, on va dire, de l'URSS,
oui.
Mais aussi dans le bloc de l'Est.
Oui, oui, oui. C'est vraiment pratiquement un des auteurs officiels.
Mais alors, qu'est-ce qui ne leur plaisait pas dans Michel Strogoff?
Alors, il y a plein de choses qui ne leur plaisent pas dans Michel Strogoff. Ils trouvent que ce n'est pas une peinture fidèle de la Russie. Je dirais qu'ils connaissant les choses... Pour nous, c'est absolument l'incarnation,
oui.
de la Russie. Voilà, les grandes plaines, ce héros... Mais eux, ils trouvent que ça n'est pas exact.
Oui.
Bon, déjà, ils vous expliqueront avec raison qu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'attaque des Tatars.
Oui, ça c'est
que
sûr.
De toute façon, c'est anachronique. Et puis, il y a des tas de petits détails qui ne leur paraissent pas exacts.
Mmh. Oui, mais bon, c'est bien normal de faire attention à ce genre de détails parce qu'on parle de, on parle de soi. Ok, et puis il y a eu également donc, des films en URSS et puis d'autres donc, plus proches de nous, en Europe centrale et de l'Est, et très notamment, très remarquablement, en Tchécoslovaquie, avec, avant tout un réalisateur qui s'est emparé de l'œuvre de Jules Verne pour des films qui sont absolument magnifiques, qui sont des films aussi qui adaptent à la fois le texte et les illustrations. Mmh. Et c'est des films de Karel Zeman.
Voilà, Zeman, effectivement, qui était, je pense, un réalisateur de génie. Et ce, d'autant plus que, sauf erreur de ma part, il n'a pas les moyens de Hollywood.
Ah non.
Donc, il a une ingéniosité pour créer ses propres effets spéciaux.
Oui.
Une ingéniosité qui est tout à fait... tout à fait admirable. Voilà, j'avais vu une fois une sorte de petit making-of d'un des films et on voyait comment il pouvait donner des impressions d'abysses sous-marins dans un petit bocal avec trois bouts de ficelle et de carton. Et effectivement, il s'est emparé de l'esthétique vernienne et en particulier, il a réussi à traduire à l'écran ses illustrations. Avec ces traits noirs qui sont tellement représentatifs de ces gravures à l'origine sur bois.
Oui, et alors c'est ça, parce que les illustrations qu'on peut retrouver dans les romans du 19e et donc notamment chez Jules Verne ont toujours cet aspect strié.
Voilà, exactement.
Alors c'était pour pouvoir les graver finalement.
Ben c'est parce que c'est la technique de la gravure sur bois qui donne, en fait, qui l'image est constituée par les encoches qu'on va faire dans le support et qui donne effectivement ces stries.
Voilà, et Zeman, les ancrer et ensuite imprimer. Oui.
Puisque en fait, le bois est une méthode d'impression en relief.
Voilà.
Donc c'est ce qui ressort, qui permet d'imprimer et de créer l'image. Mmh. Et Zeman, il va s'en emparer pour en faire une esthétique propre. Et puis, à côté de ça, il a aussi une lecture extrêmement libre des scénarios de Jules Verne. Et donc, il fait passer ses propres centres d'intérêt. Puis en plus, il présente l'intérêt d'avoir en particulier adapté un roman totalement méconnu qui est Face au drapeau.
Oui.
Voilà, donc c'est encore une lecture supplémentaire de Jules Verne.
Et effectivement, on parlait de l'aspect visuel des films de Zeman qui sont absolument remarquables, magnifiques. Zeman a commencé tout d'abord par faire du cinéma d'animation en image par image. Et il utilise ces techniques-là pour faire ses effets spéciaux quasiment lui-même et les intégrer aux acteurs dans les films. Et les choix artistiques fait par Zeman, on est dans les années, ça va de milieu des années 50 à 1970 pour la dernière adaptation qu'il fera de Jules Verne. À cette époque-là, il pouvait tourner en couleur, bon, même si ça coûtait plus cher, mais il y a une volonté justement de tourner en noir et blanc pour retrouver cette esthétique des illustrations et l'utilisation de l'image par image et je pense volontairement pas spécialement réaliste, mais de l'ordre du féerique.
Tout à fait.
Et donc, le féerique éclate aux yeux du spectateur lorsqu'on regarde ces films-là. Et découvrir un film de Zeman aujourd'hui, c'est absolument intemporel. Je trouve vraiment remarquable. Quoi.
Voilà, et en plus, on a la chance de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions, puisque en République tchèque, il y a tout un travail autour de Zeman. Un musée qui lui est consacré et donc il y a eu publication de DVD qui permettent vraiment de prendre connaissance de l'œuvre.
Voilà, dans des très bonnes conditions. Et puis donc il a également fait une adaptation de 2 ans de vacances, donc c'est le dirigeable volé.
Oui.
Et puis une adaptation d'Hector Servadac,
oui.
qui est pas un des plus connus. L'Arche de Monsieur Servadac, qui est aussi l'un des plus fous de Jules Verne.
Oui, c'est un sujet très 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 fou puisque là c'est carrément un voyage de 2 ans dans le monde solaire avec une météorite qui arrache en fait un bout de la Terre qui va se mettre à tourner dans le système et en fait les héros ne réussiront à à revenir sur Terre que par le truchement d'un ballon. Donc oui, c'est un film assez fantastique, effectivement.
Oui, voilà. Et l'adaptation est très libre aussi, puisqu'on va y retrouver des dinosaures, par exemple, qui n'étaient pas dans le roman. L'émission commence déjà à toucher à sa fin, mais pas tout à fait encore, il nous reste un peu de temps. On a évoqué donc Kara Elzeman, les adaptations donc à l'Est. Jules Verne est lu partout dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. C'est encore aujourd'hui l'un ou le auteur français le plus traduit.
Alors c'est l'auteur français le plus traduit, et je crois que c'est le deuxième auteur le plus traduit dans le monde après Agatha Christie.
C'est déjà pas mal. Et puis, moi, j'avais noté, il est probablement aussi le quatrième auteur le plus adapté au cinéma. Les autres étant Conan Doyle,
oui,
mais adapté souvent très librement avec Les Aventures de Sherlock Holmes. Dickens, mais je pense que c'est 75% des adaptations de Dickens qui sont le conte de Noël de Scrooge. Et puis Shakespeare, bien entendu, qui est vraiment régulièrement adapté. Mais il fait quand même partie du carré de tête. Et puis, il a tellement été adapté un peu partout dans le monde, et très notamment aux États-Unis, que la légende voudrait que certains jeunes Américains aient l'impression que Jules Verne était américain lui-même, ou anglais en tout cas.
Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où on peut avoir l'impression que Jules Verne fait partie de la famille.
Oui.
Et d'ailleurs, il a cette particularité, c'est que dans beaucoup de pays du monde, il ne s'appelle pas Jules Verne. Son nom a été adapté.
Ah.
Donc les Espagnols vont l'appeler Julio Verne. Voilà. Et c'est très récemment qu'on publie des romans de Jules Verne avec Jules Verne. Voilà.
Ah oui.
Et donc ça montre bien à quel point il a été approprié vraiment partout dans le monde, avec quelques risques d'instrumentalisation, mais,
oui, mais
c'est la rançon du succès.
Mais il est familier partout, quoi. Et ce succès donc ne se dément pas, et donc il continue à y avoir de temps en temps des adaptations. Alors la dernière, elle a quasiment 10 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, la dernière adaptation de Jules Verne avec des gros moyens. Et c'était donc Voyage au centre de la Terre en 3D avec Brendan Fraser, qui cette fois-ci adaptait assez fidèlement finalement le roman avec le professeur et son neveu. Et leur guide islandais,
oui,
qui cette fois-ci n'était pas un homme, mais une femme, tout simplement.
Voilà.
Mais on n'a pas rajouté un personnage féminin, on l'a juste changé de
voilà, sexe. Et en fait, c'est je trouve que c'est une excellente adaptation,
oui,
tout simplement parce qu'elle a l'intelligence, tout en étant une adaptation, de faire référence au livre. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils trouvent le livre,
oui,
qu'ils vont se lancer dans cette aventure. Donc la modernisation se fait très, très, très intelligemment, et effectivement, les effets 3D sont impressionnants.
Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu rêver. Après, ça fait rentrer finalement cette fiction dans notre monde à
oui,
nous. Pour les jeunes enfants qui vont lire Jules Verne, ils vont se dire, mais en fait, peut-être que c'était vrai. Et d'ailleurs, c'était aussi le sujet de cette suite, donc L'île mystérieuse, qui donc, ne reprenait plus Brendan Fraser, mais qui le remplaçait quand même par The Rock et Michael Caine dans le même film. Donc on peut, je pense, pas rarement demander mieux, dans un film qui était, alors pour le coup, une adaptation pareil plus libre, mais très sympathique, je trouve, avec des animaux géants, etc. Et surtout qui annonçait un troisième, mais qui, hélas, ce sera jamais fait. Qui aurait vu The Rock et Michael Caine aller sur la Lune. Donc j'aurais aimé voir ça, mais hélas, ça ne sera pas le cas, mais probablement qu'il y aura encore bientôt des nouvelles adaptations de Jules Verne, puisqu'il fait vraiment partie du patrimoine mondial de l'imaginaire.
Et puis il est un fonds de commerce presque inépuisable, parce que ce qu'on peut aussi préciser, c'est que si le cinéma s'en empare, c'est aussi qu'il est un excellent scénariste. Donc il a prévu des histoires avec de tels rebondissements que c'est pain béni pour les scénaristes d'aujourd'hui.
Bah exactement, très notamment le tour du monde en 80 jours avec ce retournement de situation finale.
Et le suspense jusqu'à la fin, oui.
Exactement. Eh bien voilà, cette émission se termine pour de vrai. Agnès Marceteau, donc merci énormément d'être venue avec nous aujourd'hui évoquer les adaptations de Jules Verne au cinéma. Et puis, à vous, auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à faire un tour donc, au musée Jules Verne, dont vous êtes la directrice, qui propose toujours d'accueillir le public et qui propose également donc, cette programmation Jules Verne grand écran régulièrement avec la prochaine projection, on vous le rappelle, jeudi 14 octobre à 20h30 au bar Belle de Jour avec le film L'Étoile du Sud, adaptation d'un des romans un peu moins connus de Jules Verne, mais ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, Agnès.
Merci de m'avoir accueilli.
Et puis, à très bientôt. On termine en musique, encore une fois, bien entendu, avec toujours une musique tirée d'une adaptation d'un des romans de Jules Verne. Alors, cette fois-ci, on va écouter le générique télé. Alors ça va rappeler aux gens qui sont nés dans les années 80 quelque chose, comme moi. Le Tour du Monde en 80 jours, c'était animé par un studio japonais. Et ça passait à la télévision quand on était petit. Voilà. Bonne écoute et à très bientôt. Merci.
Phileas Fogg, et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.
Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis typhon, partout je les suis.
Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne